sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie accompagnés jusqu'à 16h, vous l'avez entendu par ma camarade Johanna. Bonjour Johanna.
Rebonjour Eve.
Alors cette heure c'est la vôtre, on va parler pendant une heure des sites de rencontres en ligne, Mythique, Adopt-un-Mec ou Tinder. En France, on s'y bouscule, presque autant que sur la 13 un soir de retour de vacances. Un Français sur quatre dit s'y être inscrit au moins une fois dans sa vie, mais un sur deux seulement a décroché un rendez-vous. Beaucoup de rencontres virtuelles donc, et quand il y a un date, comme disent les jeunes, un rencard pour nous Johanna, eh bien ils sont peu nombreux à repartir main dans la main pour la vie, seulement 18%. Et selon l'INED, un couple sur 12 se forme grâce à ces sites. Alors pourquoi tant de déperdition entre le nombre d'inscrits et le nombre de couples? Qu'est-ce qui cloche? Eh bien du côté des jeunes, ils disent que l'offre est tellement grande, le choix tellement large qu'ils ont du mal à se fixer, se dire « j'arrête, c'est le bon » ou la bonne. Il y a toujours une petite voix qui dit « et si tu trouvais encore mieux ?» C'est vrai aussi que les motivations divergent entre ceux qui cherchent l'amour d'un soir, l'amour d'une vie ou pas d'amour du tout. Sans oublier bien sûr les tocards, les déséquilibrés, les manipulateurs, les goujats, les nymphomanes. Bref, sur ces sites, les désillusions sont souvent à la hauteur des attentes immenses. Alors comment maximiser ses chances de trouver l'amour sur les sites de rencontres? C'est le sujet de notre émission cet après-midi sur Europe 1. On va en parler pendant une heure. Nous attendons avec impatience vos témoignages. Racontez-nous vos tentatives, vos gadins, mais peut-être aussi vos succès. Nous sommes là pour vous écouter.
C'est le moment de témoigner et pour joindre Eve, appelez au standard Europe 1 le 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou laissez-nous un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur la page Facebook de l'émission. Partageons nos expériences de vie.
Europe 1, 15h-16h, partagez vos expériences de vie avec Eve Roger.
Alors forcément, chacun ses techniques hein, pour rencontrer l'autre. Et est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui vont sur les sites de rencontres internet? Oh les mythos. L'industrie qui fait des milliards d'euros dans le monde, elle en a pas un soir. Moi avant, si j'y allais, j'allais sur Mythique, vous connaissez tous. Hein. Enfin, vu les profils qu'il y a sur ces sites-là, c'est plus mystique que Mythique. Les mecs ont tous des pseudos un peu bizarres. Bogos 93, Tony Montana de Barbès, Guy George Forever. L'autre jour, j'ai vu Émile Louis XVI.
On vient d'entendre le comte de Bouderbala avec son sketch sur le fameux site de rencontre, Mythique. Y a-t-il une méthode pour rencontrer le grand amour sur le net? C'est le thème de notre émission, Eve Roger.
Oui, nous ouvrons le bal avec Caroline. Bonjour Caroline.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors dites-moi Caroline, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Je viens de Paris et j'ai 33 ans.
Alors Caroline, vous avez eu il y a quelques années de cela une expérience singulière avec un certain Enguerrand. Alors si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on commence par ça.
Oui, bien sûr.
Alors racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé avec Enguerrand, ce qui s'est passé.
Eh bien, j'ai rentré sur un site de rencontre. Au début, j'ai vu son annonce. Il m'avait écrit lui-même. Dans son annonce, il était un peu arrogant, mais en même temps, il était charmant parce que il montrait un peu ses fêlures, il montrait qu'il avait des goûts artistiques et qu'il aimait beaucoup son métier, qu'il avait beaucoup voyagé et j'avais envie de le découvrir un petit peu avec une certaine réticence et une curiosité. Et
vous disiez qu'il avait les cheveux longs, à ce moment-là j'avais une passion pour les cheveux longs.
Oui, c'est vrai.
Ça a joué,
c'est vrai que physiquement il me plaisait.
Alors, vous êtes parlé quand même un certain temps sur Internet avant de vous rencontrer.
On s'est parlé quelques jours.
Mm-hmm. Et après?
C'était ouais. Assez rapide. Alors, c'est vrai que la rencontre était assez étonnante parce qu'en fait, dès le départ, il avait été clair sur ce qu'il voulait, c'est-à-dire une femme fatale avec des stilettos. Je lui avais clairement dit que ce n'était pas mon cas.
Ouais.
Et quand on s'est vu, on s'était donné rendez-vous près d'une station de métro. Et il m'a regardé, en fait, je pense qu'il m'avait reconnu, moi je l'ai reconnu, je lui ai dit « Ah ben, Guéron, comment allez-vous ? » Et il m'a regardé, il m'a dit « Comment vous connaissez mon prénom ?» Je lui ai dit « Bah, tu as rendez-vous avec moi, on s'est parlé avant.
»
Et là, il a sorti son téléphone, et il a un peu bugué, et il a mis son téléphone à côté de mon visage, il m'a dit « Ah oui, effectivement, c'est bien toi. » Je pense que c'était une tactique de déstabilisation pour voir un peu comment je réagissais, me tester, et après, quelques minutes, je lui ai dit « Bon, je pense qu'il vaut mieux qu'on en reste là. » Et il m'a dit « Je pense que c'est une bonne chose. »
Parce que comment vous l'interprétez, ce geste de mettre le téléphone à côté de vous pour comparer la photo? Est-ce que c'est simplement une façon de vous dire que vous ne lui plaisiez pas?
Oui, je pense que c'était vraiment une façon assez maladroite et voire goujate.
Ouais, c'est ça, goujate.
De me dire, oui, tout à fait, de me dire, voilà, ça va pas le faire. En fait, je sais pas si c'était quelque chose qu'il avait déjà fait. Moi, on m'avait jamais rien fait de ce type avant, donc ça m'a complètement décontenancé. Et presque, ça m'a fait rire un peu jeune.
Ah oui, c'est ça, je comprends. C'est quand même un peu spécial comme entrée en matière. Mais entre-temps, enfin, depuis, je crois que vous avez quand même fait d'autres rencontres sur Internet. Est-ce qu'elles ont toutes été du même acabit, c'est-à-dire des choses un peu déstabilisantes, étonnantes, peut-être même désagréables?
Alors, oui, j'ai fait des très bonnes rencontres. Déjà, je tenais à le dire, j'ai fait deux très bonnes rencontres.
Deux
Une rencontre deux très bonnes rencontres. Mmh. Une avec qui ça a duré à peu près un an, et un autre, ça a duré quelques mois, avant qu'ils ne partent en province.
Ouais.
Ensuite, j'en ai eu quelques-unes. Par exemple, j'en ai eu un, au début, ça se passait bien, voilà, on échangeait quelques messages, mais il avait parfois des mots assez spéciaux. Par exemple, je lui disais, je m'appelle Caroline, et il disait, « Ah, mais moi, je m'appelle Carole, on est presque jumeaux de prénom, donc j'en ai pas l'intérêt. » Et puis là, c'était beaucoup pour me rencontrer. Moi, je lui dis, je ne vois pas le feeling. Et puis après, il a changé de numéro. Il a essayé de m'appeler avec un numéro de quelqu'un d'autre. Moi, je lui ai dit, ça ne sert à rien. De toute façon, dès que je saurai que c'est toi, ça ne marchera pas. Et puis après, j'ai rencontré
aussi... Un gars insistant, quoi. Alors, c'est ça, c'est les types un peu relous, quoi. Un peu...
Alors, lui, clairement, c'était quelqu'un de relou. C'était quelqu'un de lourd. J'ai également rencontré quelqu'un avec qui ça se passait bien, mais... qui était un peu étrange. En fait, ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'il avait, à l'époque, 3 ans de moins que moi, donc il avait 23 ans. Et en fait, il m'a clairement dit qu'il sortait avec des femmes de tout âge, qui allaient donc de 30 ans jusqu'à 60 ans, et ça m'a vraiment beaucoup surpris.
Ouais.
Donc, j'aurais dû peut-être suivre à ce moment-là, et en fait, je l'ai rencontré dans un café, ça s'est plutôt bien passé sur... les 15 premières minutes, et puis après, de but en blanc, il m'annonce qu'il est schizophrène, qu'il a des états de dépressifs. Voilà, et là, j'ai commencé un petit peu à avoir peur. Je me suis demandé surtout s'il allait être violent, mais comme j'étais dans un espace public, ça m'a pas... j'ai pas eu peur plus que ça, mais c'est vrai que j'avais envie de fuir la situation. Et puis, en fait, ça s'est fait assez naturellement, on n'avait pas grand-chose à dire. Et on est reparti de chacun de son côté.
Mais vous nous avez dit au début, vous avez quand même eu deux histoires qui ont duré un certain temps. Ça, c'était des histoires... qu'est-ce qu'il y avait de différent dans ces histoires-là? C'est juste parce que votre personnalité, ça convenait mieux avec la personne en face? Ou c'est parce que c'était un site différent?
Ah non, c'était toujours sur le même site. Hein, je pense simplement que c'était une personne avec qui je m'entendais très bien, qui cherchait la même chose que moi. Il y avait un très bon feeling. Je pense que ça s'est fait un peu naturellement. C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment d'explication. On s'est rencontrés, ça s'est très bien
passé. Très bien
je pense
passé.
Simplement que le réseau, le site m'a permis de rencontrer quelqu'un que je n'aurais peut-être pas eu l'occasion de rencontrer dans la vraie vie. Mmh. Parce que parfois, on a moins d'occasions. Et que c'était quelqu'un qui me correspondait bien, tout simplement.
Et pourquoi après, ça s'est terminé, si ce n'est pas indiscret? C'est parce que ça se termine comme n'importe quelle histoire, même une histoire qu'on aurait commencé dans la vraie vie, si on peut dire?
Alors, il y a une des deux histoires. Ça s'est terminé tout simplement parce qu'on était trop différents. Oui. Parce qu'il avait essayé de me changer, parce qu'il voulait m'imposer des choses qui ne correspondaient pas.
Ouais,
parce que c'est vrai qu'il voulait aussi me présenter sa famille quand on serait mariés. Que, du coup, je ne connaissais personne de son entourage. Qu'il était très discret sur sa vie personnelle. J'avais l'impression qu'on ne partageait pas assez de choses.
Donc c'est finalement des raisons qui sont assez communes, y compris aux couples qui se rencontrent dans la vie. Caroline, pour terminer, quelles leçons vous tirez, vous, de ces passages sur les sites internet? Quels conseils vous pourriez donner à nos auditeurs et auditrices?
Alors, je pense qu'il y a vraiment de tout. Je pense que les sites sont vraiment un outil. Et comme dans la vie de tous les jours, vous pouvez tomber sur des personnes très bien et sur des personnes un peu moins bien. Il faut juste être prudent. Et il faut juste y croire, et voilà, et un jour, peut-être, vous tomberez sur la bonne personne.
Et vous en êtes où aujourd'hui, Caroline?
Aujourd'hui, je suis célibataire depuis à peu près depuis quelques mois.
Ouais.
Et voilà,
Vous continuez vous êtes toujours inscrite sur les sites?
Oui, je suis toujours inscrite sur un site en particulier. Et j'y vais de temps en temps, voilà.
Mollement, on dirait.
Voilà, c'est ça. J'y vais sans attendre quelque chose de très précis, sans voilà, me mettre trop d'espoir et trop d'attente. Mais voilà, j'ai déjà fait deux rencontres en vrai avec qui ça s'est plutôt bien passé, mais il n'y a eu pas de alchimie particulière, donc je continue et on verra bien.
Vous gardez espoir. En tout cas, merci beaucoup Caroline de nous avoir fait partager toutes ces expériences. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Christopher qui, lui, est inscrit depuis presque un an en vain.
Europe 1.
N'hésitez pas à réagir et à nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission Partageons nos expériences de vie sur la page Facebook d'Europe 1.
Mais alors, je suis complètement désolé parce qu'en fait, je vous ai pas demandé, parce que Choupinette 31, j'imagine que c'est un pseudo en fait. Ouais, c'est, comment vous vous appelez?
Je m'appelle Audrey.
Ah, j'adore. Comme Audrey Hepburn.
Hepburn,
c'est Audrey Hepburn, c'est une actrice des années magnifiques, très glamour.
D'accord. Donc vous, c'est pareil alors en fait? Ah, c'est pas Bob Blackos 69 si?
Non, ça c'est des potes qui ont trouvé le nom. Non, c'est Denis en fait, je m'appelle Denis.
Ah, Denis.
Ouais, bon.
C'est comme Denis... Brognard.
C'était un extrait du sketch La Rencontre sur Internet où Audrey Lamy et Denis Maréchal se découvrent pour la première fois en chair et en os. Comment trouver l'amour sur les sites de rencontres? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui avec Ève Roger.
Oui, nous sommes maintenant en ligne avec Christopher. Bonjour Christopher.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous, Christopher, et d'où nous appelez-vous?
25 ans, je viens de l'Essonne.
D'accord. Et déjà, est-ce que pouvez-vous nous dire, pour commencer, pourquoi vous vous êtes inscrit sur Tinder, il y a de ça quelques mois?
Oui. Alors, je me suis inscrit sur Tinder, oui, bon, évidemment, pour trouver l'amour, mais je ne voulais pas le faire trop tôt, après une rupture. J'ai rompu en décembre 2017 et je voulais... je me suis inscrit vers octobre 2018 et... je suis plus à l'aise avec les applications plutôt que sortir dans les bars. Et j'ai pas envie non plus d'être casé par une amie ou un ami parce que j'ai pas envie de donner l'impression de me servir des autres. Donc j'ai envie de... Voilà.
Vous avez envie de vous débrouiller tout seul, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et donc pour draguer sur Internet, ça vous semble plus facile que de draguer dans la vraie vie?
Alors... Oui et non, l'avantage à distance, c'est qu'on a un temps de réflexion, alors que si on est en tête à tête avec quelqu'un, bah forcément, en vrai, il faut être très instantané, il faut être très spontané.
Ouais.
Après, ce qui est difficile sur les applications rencontres, c'est qu'il faut se vendre. Il faut se vendre, et aussi, je trouve qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire que je pense que dans la vraie vie, être une femme, c'est plus dur. Hein. Tous les problèmes d'harcèlement, les salaires... mais dans les applications rencontres, je pense qu'elles ont plus le pouvoir. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par une journaliste, Julie Duportail, qui a montré que les femmes aient 50% de succès sur Tinder et les hommes 2%.
Mais disons qu'elles elles sont moins nombreuses que les hommes, donc elles ont plus le choix. Donc effectivement, je pense qu'elles ont plus le pouvoir. Mais pour l'instant, vous n'avez rencontré personne, Christopher. Est-ce que vous avez compris pourquoi?
Non, je n'ai pas trop compris. Peut-être que c'est les photos ou la description qui n'est pas assez bien. Peut-être que oui, je ne suis pas assez attractif. Hein. C'est vrai que j'ai moins confiance en moi depuis certains temps, parce qu'à force, on se pose des questions.
Ouais.
Ce qui est quand même malheureux, c'est que la personne avec qui je parle le plus et le plus longtemps, c'est une Finlandaise.
Ah, elle est loin donc.
Finlandaise sur Tinder. Ah oui, mais aimable, etc. Tout. Et c'est vrai que c'est...
Vous avez l'impression que depuis que vous êtes sur Tinder, vous avez moins confiance en vous qu'avant?
Oui, oui, oui. Ben, un peu moins, oui, quand même. Parce que dans nos têtes, on a un certain niveau d'attractivité. Là, j'ai l'impression qu'il est plus bas que ce que je croyais avant. Parce que je me dis, à la fin, on se pose des questions. Est-ce qu'on est moche? Est-ce qu'on est maladroit? Forcément.
Ah oui, je comprends, mais ça doit être terrible. Et est-ce que vous essayez justement d'améliorer les choses formelles, c'est-à-dire les photos, la présentation de vous-même?
Oui, j'ai essayé. Je m'inspire aussi plus ou moins des amis qui me donnent des conseils. Moi, j'avais rencontré quelqu'un une soirée chez des amis qui était sur Tinder aussi. Il me disait, il avait fait une photo qui a un beau paysage avec un crépuscule derrière, une photo avec une bouée licorne. Et ça, ça avait plu. Donc, il faut peut-être aussi trouver des photos qui soient un peu dans l'air du temps.
La bouée licorne, fait une photo, c'est ça?
Oui, une bouée licorne, à la plage.
Il faut le vouloir.
Hein. Et moi, bon, j'avais fait une photo. J'ai essayé de faire une photo un peu classe, c'était au parc de Sceaux, donc derrière il y avait une jolie vue, mais bon, ça faisait peut-être trop sérieux, trop... c'est peut-être ça n'a pas plu, donc faut essayer, oui, de...
Mais Christopher, vous dites une chose assez étonnante et assez marrante, c'est-à-dire que ce qui marche bien, c'est les photos avec un animal.
Oui, aussi. si, oui, les photos avec un animal, oui, j'ai vu, ça peut avoir son effet, effectivement. Ouais.
Bon, en tout cas, vous essayez de faire ce que vous pouvez. Moi, vous dites aussi, vous êtes en reconversion professionnelle, vous êtes donc à la recherche d'emploi. Vous pensez que ça vous dessert aussi, ça?
Alors, présentement, oui, mais Tinder, j'y suis depuis quand même quelques temps. Et là, j'avais un travail. Alors, certes, j'étais pas spécialement heureux dans mon travail, mais bon, ça peut arriver, hein, c'est pas... Ouais. Donc c'est pas ça qui a posé problème, parce que la recherche d'emploi, en fait, elle est récente, elle est très récente.
Ouais, donc ça n'a rien changé, en fait.
Mais effectivement, il y a priorité, oui, c'est le travail. Actuellement, oui, c'est plus le travail que une rencontre.
Dites-moi, Christopher, pour terminer, parce que vous vous trouvez comment, physiquement? Et vous vous trouvez attractif?
Je trouve que c'est toujours, subjectif. De juger soi-même, et je pense que je suis un peu monsieur tout le monde. Je suis un peu monsieur tout le monde, mais une femme, je sais pas, si on donne une femme par exemple, 5 sur 10 en note physique, elle aura plus de matchs qu'un homme qui a 5 sur 10. Il faudrait qu'il ait 7 sur 10.
Des matchs, hein, ouais, c'est-à-dire des rencontres. Hein.
Ouais, c'est ça.
Donc en fait, vous allez continuer quand même ou, moi, à vous entendre, j'ai l'impression que vous avez l'impression de ne pas avoir le mode d'emploi.
C'est ça. C'est que s'il y avait un guide à suivre, même si ça coûterait très cher, je crois que je le prendrais. Parce que,
On lance voilà, un appel sur Europe 1. Christopher est prêt à payer très cher un guide qui lui dirait comment réussir à rencontrer des jeunes filles sur Tinder. Merci beaucoup Christopher, et puis on vous souhaite beaucoup de chance. Merci de nous avoir fait partager votre expérience comme ça avec beaucoup de sincérité. Nous serons dans quelques instants en studio avec Renée Grezard. Elle peut être nous servir de guide. Elle est journaliste et tient la rubrique Tinder Surprise sur le site Rue 89.
Et on a Laurent qui nous dit sur Facebook: j'ai rencontré mon ex sur un site de rencontre il y a 10 ans. Soi-disant que les profils sont présentés par affinité. Finalement, on s'est séparés au bout de 8 ans. C'est cher et peu fiable. 8 ans, c'est pas mal quand même.
Ça dépend comment ça s'est passé les 8 ans.
Ah oui, hein. Oui. Pour joindre Ève Roger, appelez au standard d'Europe 1 le 3921 ou laissez-nous un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur la page Facebook de l'émission Partageons nos expériences de vie.
C'était l'époque des connexions pourries et il y avait des boules dans nos souris. Il n'y avait pas Tinder, ni même Adopte un mec. Du coup pour pécho, on chattait sur Caramel ou sur voila.fr. On avait des pseudos mais pas de photos de profil. Pour se rencontrer en vrai, c'était difficile.
Donc Nono 26, c'est toi.
C'est ça, c'est moi. Et toi, t'es bombasse blonde du 7-5.
Oui.
C'était le youtubeur à succès Norman avec son titre humoristique sur l'internet de la préhistoire pour la jeune génération. Comment s'y prendre pour rencontrer quelqu'un de bien sur internet? C'est le sujet abordé aujourd'hui dans Partageons nos expériences de vie avec vous, Ève Roger.
Et je me tourne maintenant vers vous, Renée Grezard. Vous êtes journaliste à Rue 89. Vous tenez une rubrique qui a beaucoup de succès sur le site de Rue 89 hébergé par l'Obs. Ça s'appelle Tinder Surprise et c'est à chaque fois le récit d'un rendez-vous dans la vraie vie de deux personnes qui se sont croisées sur les sites de rencontres. Alors bonjour Renée.
Bonjour.
Alors, ce qui est drôle dans votre rubrique Tinder Surprise, c'est que vous avez commencé en demandant aux gens de vous raconter les plans pourris. Vous dites aussi les plans moisis qu'ils ont vécu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est très courant, ces plans pourris, ces plans moisis?
Non, alors en fait, c'est parce que c'est parti d'une expérience que moi-même j'avais eue, c'est-à-dire que j'avais déjeuné avec une amie qui m'avait raconté ce date complètement...
C'est un rendez-vous, ce rencard.
Le rendez-vous avait eu. Avec un garçon, et c'était complètement dingue, et du coup je m'étais dit il faut absolument qu'on documente en fait ces rencontres qui sont d'un genre nouveau, c'est-à-dire que les gens se mettent ensemble, qu'ils se séduisent, ça existe depuis toujours, mais que là il y avait un biais qui faisait que les choses se passaient différemment, c'est-à-dire que d'un seul coup, deux personnes inconnues, enfin ça existait avec les petites annonces, mais c'était moins courant,
ouais.
Et que ça créait des choses qui étaient intéressantes et qu'on avait envie, nous, de documenter. Et donc on a commencé par parler de dates pourries parce qu'on trouvait qu'il se passait des choses effectivement assez pourries, moisies et extraordinaires qui ne se passaient pas vraiment autrement. Et puis après, au bout d'un moment, on s'est dit qu'on avait quand même envie de raconter de
belles histoires.
Ouais, oui. Voilà.
Donc pas seulement les plans pourris. Et qu'est-ce que c'est qu'un plan pourri, plan moisi? Parce que vous avez dû en éditer des dizaines, parce que je crois qu'il y a une centaine de Tinder surprises. On en a entendu un là au début de l'émission avec Caroline qui nous racontait ce type qui la compare à la photo. Ça, c'est qu'est-ce qui est le plus pourri, le plus moisi selon vous?
Alors nous, en fait, de toute manière, on a un principe de base, c'est qu'on n'est pas là pour juger les gens. Donc en fait, c'est eux leur ressenti qui nous intéresse. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est pourri ou ce qui est bien. Quand quelqu'un m'écrit et qui me dit, voilà, j'ai vécu cette histoire pourrie, même si c'est quelque chose qui, pour moi, est plutôt chouette, par exemple, parce que ça peut arriver, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes histoires. Je suis là pour raconter l'histoire de la personne, mais d'une personne à l'autre. Par exemple, il y avait un date dont je me rappelle, une jeune femme qui racontait qu'elle avait vécu un date super avec un garçon qu'elle aimait bien, mais finalement elle s'était retrouvée dans une soirée avec le garçon. Lui, le premier garçon était polyamoureux, et donc quand elle avait commencé à s'intéresser à son pote, elle est allée le voir en disant « bon, bah, j'ai un problème avec ton pote, en fait, j'ai envie de le choper ». Et là, le garçon lui avait dit « tu sais, tu es libre de ton corps, tu peux faire ce que tu veux ». Enfin, cette situation qui est quand même pas ordinaire, on va dire. Je pense que pour plein de gens, elle serait complètement...
Oui, je l'ai lu, ça se passait à Berlin d'ailleurs.
Oui,
il y a un autre plan moisi que j'ai lu qui m'a beaucoup fait rire. C'est le type qui a rendez-vous avec une fille et qui espère qu'elle va livrer sa table basse, qu'elle va lui servir de livreur en quelque sorte, avec sa camionnette.
Mais ça, je pense que c'est quelque chose que je trouve... Enfin, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que comme les applis ont une fonction précise qui est clairement un peu affichée comme une fonction de supermarché, c'est-à-dire qu'on vient pour trouver un produit, enfin, ou que en tout cas les gens se présentent comme un produit et on vient pour trouver quelque chose comme un client plutôt. Je pense qu'il y a de temps en temps une petite confusion des genres et que les gens ne savent même plus eux-mêmes où ils sont et voilà et que de,
en fait, ce qu'ils cherchent en fait.
Voilà, exactement.
Donc on ne savait pas si c'était une livreuse ou alors
si
une femme
sur
avec
le bon coin ou sur Tinder.
Et après déjà 3 années de cette rubrique et une centaine donc de récits, vous devez avoir une vision assez claire de l'efficacité de ces plateformes pour fabriquer des couples. Vraiment pour
Alors,
faire couple
Oui et non, parce que l'être humain est très complexe et qu'encore aujourd'hui, je suis surprise par les récits qu'on reçoit. Mais ce qui est sûr, c'est que la sensation, et ça c'est mon analyse à moi, et peut-être qu'elle est questionnable, j'en sais rien, mais la sensation que j'ai, c'est que les gens qui s'en sortent bien sont ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent en arrivant sur l'appli, et qui ne se racontent pas d'histoire, et qui ne racontent pas d'histoire aux autres. Donc ça fait quand même beaucoup de critères, parce que ne pas se raconter d'histoire à soi-même, c'est déjà... C'est pas tout le monde.
C'est évident.
Ne pas raconter d'histoire aux autres, c'est encore un autre critère. Et savoir ce qu'on veut, c'est pas simple en fait. Tout le monde ne sait pas ce qu'il veut. Et oser se le dire.
Mais vous entendiez Christopher tout à l'heure. On avait l'impression que lui savait ce qu'il voulait et il avait l'air assez démuni, quoi.
Mais je pense que Christopher, moi j'ai noté plusieurs choses en fait dans ce qu'il disait. Déjà, c'est pas vrai que les femmes sont plus avantagées en fait sur les applis. En fait, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de chiffres, effectivement, il y a plus d'hommes, notamment parce que d'un point de vue démographique, les hommes jeunes sont plus célibataires que les femmes.
Ouais.
Plus le temps passe et plus les femmes les plus âgées vont devenir plus célibataires.
Enfin, d'accord, il y a une inversion des courbes.
Exactement. Donc effectivement, les hommes ont l'air d'être en puissance, mais les femmes, elles sont dans une vulnérabilité aussi, c'est qu'elles sont des biches dans un bois. Et donc elles sont, moi je le vois parce que je suis sur les applis aussi, c'est-à-dire que par exemple sur OkCupid où je peux voir les messages qu'on m'envoie, je vais avoir des je te lèche, des trucs comme ça, qui sont hyper, donc dire que les femmes sont plus puissantes, c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire, et Judith Duportail donc qui citait, je pense qu'elle aimerait pas qu'il la cite comme il l'a cité, elle aimerait pas, c'est juste que c'était pas exact, elle montre justement que l'algorithme de Tinder, enfin que Tinder a mis en place un algorithme qui est sexiste en fait, qui est favorable aux hommes, c'est-à-dire que en gros un homme qui gagne bien sa vie pour l'algorithme, c'est positif pour lui. Une femme qui gagne bien sa vie, c'est négatif. Enfin, c'est des bonus et des malus. C'est un peu compliqué, mais elle montre.
Chacun a une note, c'est ça, de désirabilité.
Voilà, exactement. C'est ce qu'elle montre dans son enquête.
Donc, la femme, pour terminer, est une biche dans un bois. Et donc, résultat, elle a du mal à rencontrer quelqu'un avec qui.
Non, mais je caricature parce que, quand même, les femmes ont le choix aussi. Mais en tout cas, elles sont dans ce système de supermarché. Effectivement, l'objet est recherché, retrouvé. Donc, je dis biche, mais bon, elles ont un pouvoir, bien sûr. Mais oui, elles sont vulnérabilisées, c'est sûr.
On a lu, on y reviendra. Certaines disent qu'il faut être blindé. Certaines parlent même de cruauté des sites. On en parlera. C'est-à-dire que pourquoi les sites peuvent s'offrir certaines. Restez avec nous, donc René Grezard. Dans quelques instants, nous allons accueillir Marie, et vous allez l'entendre, Marie est devenue une super pro des sites de rencontres.
Et Git nous dit sur Facebook, j'ai connu mon compagnon sur un site de rencontres, 3 ans que l'on est ensemble, nous vivons avec mes 3 enfants, venons de reprendre un commerce, j'étais seule et divorcée depuis 7 ans.
Europe 1.
Vous avez trouvé l'amour sur Internet, comment avez-vous fait? Racontez-nous votre histoire, on vous écoute au 3921, vous pouvez aussi nous écrire, nous poser vos questions, vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Moi, mythique, c'est vrai, l'autre jour, tu vois, c'était une anecdote au communo. C'était un dimanche, j'avais loupé téléfoot, j'étais mal et tout. Je me dis, journée foutue pour foutue, autant que je baise, quoi, tu vois. Et là, Non, je clique sur une gonzesse. Je clique, bon, la fille était pas mal. Elle avait un beau cul, mais une gueule assez moyenne. Bon. La fille, elle déboule à la maison, une antillaise, putain. Elle était maigre. Oh, j'ouvre la porte, on aurait dit Mikado, dis-le. Elle avait le cul, de petites gousses d'ail, une tête de lapin, il n'y avait rien à grignoter là-dessus, hein.
C'était Jérôme Commandeur qui n'a pas son pareil pour draguer sur le net et qui trouve toujours les mots justes. Maximiser nos chances de rencontrer la personne qui nous correspond sur Internet, c'est le sujet de Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h avec Ève Roger.
Oui, nous sommes en ligne maintenant avec Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Marie?
J'ai 50 ans et je vous appelle de Paris.
Alors Marie, vous, tout a commencé après une séparation il y a 2 ans, mais vous avez beaucoup, beaucoup hésité à vous lancer. Pourquoi vous avez hésité?
Mauvaise image des sites de rencontres. Ouais. Pas convaincue qu'à mon âge, je pouvais trouver quelqu'un de bien sur un site de rencontres.
Ouais.
Et puis toujours une copine pour dire, ben moi, il y a 10 ans, l'homme avec qui je suis aujourd'hui, c'est par mythique que je l'ai rencontré. Donc essaye, tu verras bien.
Ah oui, donc c'était voilà vos copines qui vous ont poussé?
Oui, qui m'ont poussé, effectivement.
Et quand vous y êtes allé, alors là, vous y êtes allé franchement, parce que je crois que vous êtes inscrite sur plusieurs sites à la fois.
Tout à fait.
Au bout d'un moment, je ne sais plus combien de sites vous étiez inscrite.
Je crois que j'ai cumulé 5 sites à un moment.
Et pourquoi vous êtes inscrite sur tant de sites à la fois?
Eh bien, parce que j'ai commencé par un premier où je trouvais les photos pas forcément attractives.
Ouais. Les photos des hommes, deuxième... hein, soyons clairs.
Oui,
et c'est
oui.
Ça. C'était pas la qualité de la photo, c'était les hommes, ils n'étaient pas très intéressants pour vous. Ensuite?
Ah, il y avait les deux. Hein. Y avait la qualité de la photo, ouais, plus le manque d'intérêt des hommes derrière les photos.
Ouais.
Y a eu d'autres sites où je semblais attirer que les jeunes gens de 30-35 ans. Bon,
c'est pas désagréable.
Oui, pas désagréable, mais l'impression de sortir avec mon fils, c'était pas franchement la plus agréable des idées.
D'accord. Alors, vous êtes devenue une pro de la photo, de la description. Alors, qu'est-ce qui marche? Aidez nos auditrices.
Ah, qu'est-ce qui marche? J'ai plutôt les auditeurs que je vais aider. Parce que eux, ce serait bien déjà qu'ils sourient sur les photos. Ça fait une énorme différence. Hein. Pour un qui sourit, il y en a 10 qui ne sourient pas.
Ouais.
J'entendais votre précédent qui parlait de photos avec des animaux.
Oui, Christopher.
Oui, a priori. Ouais.
Ah, vous validez ça, la photo avec l'animal?
Non, moi non, j'ai l'impression qu'on fait du marketing et que je le vois... Ouais. comme un nez rouge au milieu de la figure.
Mmh.
Le plus naturel possible, ça c'est pas mal, parce que les mauvaises surprises de la photo d'il y a 5 ans, et quand vous rencontrez le monsieur, bah, il en a 60 et plus 50, comme il l'avait mis sur son site au départ.
Ouais.
Beaucoup d'honnêteté aussi, ça c'est pas mal. Et puis ceux qui ont de l'humour, qui savent se décrire différemment.
Vous avez des exemples?
Oui. Ah oui, oui, j'en ai un. J'ai longtemps gardé en capture d'écran sa description. Il avait utilisé le terme... en fait, il a fait tout un double sens autour de la voiture.
Mm-hmm.
Voiture d'occasion, ayant servi, mais toujours bien entretenue. Voilà, il y avait beaucoup d'humour dans ce qu'il mettait et c'était assez... ça a changé.
Mm-hmm.
Ça a changé des autres, et effectivement...
Et ma Marie, sur Tinder, oui, vous êtes allée aussi, puisque ça fait partie des sites où vous êtes inscrite. Est-ce
fait.
Que ça vous, a, ouais. ça vous a pas gêné, ce côté Kleenex, je prends, je jette, quoi?
Si, mais au tout début, je me suis pas méfiée et j'y suis allée très confiante. Et bah oui, j'ai fait comme tout le monde, hein, les rencontres one-shot qu'on comprend pas pourquoi l'homme disparaît après une première soirée qui s'est bien passée et ne donne plus jamais de nouvelles. Ou si, donne des nouvelles 6 mois après. Au fait, tu vas comment?
Et dans ces cas-là, vous répondez quoi?
Oh ben, je lui ai répondu gentiment que quand on ne savait pas donner des nouvelles 24 heures après, on ne pouvait pas se repointer 6 mois après, comme si tout était normal et facile.
Et ça, c'est ce qu'on appelle les fantômes, c'est ça?
Oui, tout à fait. Moi, je les appelle les one-shot, mais les fantômes, c'est pas mal aussi.
Et ça, c'est particulièrement sur Tinder. Ce n'est pas le cas sur les autres sites que vous avez testés?
Si, j'en ai rencontré aussi sur... Mythique, j'ai pas fait.
Mythique, ça vous plaisait pas? Pourquoi ça vous plaisait pas,
Mythique? J'ai pas aimé.
Pourquoi?
Trop jeune, les photos moches. Vraiment peu attractif.
Ouais, d'accord.
Pas de texte. Alors que vous avez des sites comme Adopt un mec ou Happn,
ouais,
où les hommes sont plus, on va dire, volubiles, ou en tout cas... peuvent tenir des conversations, peuvent prendre le temps de se décrire, de dire ce qu'ils cherchent, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment dans la vie.
Je vais me tourner vers René Grezard, notre experte. Vous validez là aussi ce que dit Marie, c'est-à-dire il y a des sites où les hommes sont plus, donnent plus d'eux-mêmes que d'autres ?
Non, en fait, ce qui est sûr, c'est que c'est des produits, les applis en elles-mêmes aussi. Donc, en fait, vous vous dirigez vers un produit qui correspond un peu plus à ce que vous êtes vous. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a un bobo qui habite à Montreuil, on va peut-être aller faire ses courses au Nouveau Robinson ou à la Biocoop. Et voilà. Et donc, en fait, chaque appli correspond peut-être un peu plus à un consommateur aussi, à un client. Et ce qui est intéressant, c'est que les conseils, enfin, cette histoire d'animaux, là, par exemple, je trouve ça très intéressant. C'est que, depuis tout à l'heure, on dit que c'est pas mal, mais moi, autour de moi, je vois que des gens qui me disent qu'ils aiment pas ça du tout. Quelqu'un qui pose avec un tigre ou avec un dauphin. Donc en fait c'est aussi des applis qui sont très ciblées sociologiquement, c'est-à-dire que en fait selon qu'on habite Paris, qu'on habite Lyon ou un petit village dans la Drôme, on n'est pas déjà géographiquement on n'est peut-être pas sur la même appli, et ensuite selon le milieu socio-professionnel aussi on n'est pas sur la même appli.
Marie, vous restez avec nous et dans quelques instants on va savoir enfin si vous avez fini par trouver la perle rare. Et
Claude, je me suis inscrite une seule fois un site de rencontre. J'ai rencontré ma femme au bout de 3 mois. Mon expérience en ligne fut très bonne. Je me suis rendue à 7-8 rendez-vous. Bien sûr, j'avais certaines fois des surprises, des personnes trichaient sur le contenu en ligne. Mais cela s'est toujours bien passé. J'ai toujours eu des rencontres courtoises. Il faut se rendre à ces rendez-vous avec une optique positive en restant galant. C'était Claude au 39-21.
C'est-à-dire plutôt comme mutine, romantique, femme-enfant ou possessive?
Mais romantique, ma chérie, ça mange pas de pain.
Ok, bon, allez en pseudo.
Pourquoi faire?
Bah, maman, tu vas quand même pas mettre Marie-Francine.
Et pourquoi?
Bah, c'est pas très glamour.
Bah non.
Je te prête le mien sur le bon coin, si tu veux. Omelette 007. Ça fait un peu James Bond girl et fille qui sait se faire cuire à neuf.
Je crois que le plus simple, ce serait que tu me mettes sur le bon coin directement. Ma fille, ayant très peu servi, cheveux véritables, à retirer sur place, 50 euros. 100 avec la montre en or de sa communion. Et le couteau électrique qui ne marche plus.
C'était un extrait du film Marie-Francine, où Valérie Lemercier se fait aider par sa mère et ses filles pour créer un profil sur un site de rencontre. Trouver l'âme sœur sur Internet avec le moins de clics et de claques possible. C'est le thème de Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h avec vous, Ève Roger.
Oui, nous retrouvons maintenant Marie, qui, je rappelle, a 50 ans et nous a raconté ses pérégrinations, tous sites de rencontres confondus. Alors Marie, j'entends que vous avez de l'humour, que vous avez confiance en vous. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé à ne pas trop souffrir de ces sites où parfois il y a quand même pas mal d'angoisse et d'inquiétude ?
Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Quand je suis arrivée sur les sites, je n'avais pas confiance en moi.
Oui.
Donc étonnamment, les rencontres, quand elles ont été sympathiques, m'ont donné confiance en moi.
Donc vous avez trouvé confiance en allant sur ces sites ?
Oui, alors... Mon petit secret, ce serait qu'effectivement, à un moment, j'ai lâché prise. J'ai arrêté de chercher l'homme idéal à chaque rencontre. Et je me suis dit, j'y vais. Au mieux, je me fais un copain. Au pire, ce sera juste un café ou un thé partagé. Et puis, ben, comme ça, je pense que ça a mis moins de pression dans les rencontres. Je me suis fait des amis, d'ailleurs. J'ai encore des potes rencontrés via ces sites.
Ouais.
Et puis un jour, ben, j'ai fait une belle rencontre.
Alors, avant de nous raconter votre belle rencontre, vous avez rencontré combien d'hommes, finalement, en tout ? Ah, vous ne sauriez pas me dire ? Parce que j'avais une question très précise. Combien de rendez-vous ? Combien de nuits ? Combien de mois ? Bon, disons, en gros...
25 rencontres, à peu près, sur une dizaine de mois.
Ouais. Ce qui est quand même pas mal. C'est mieux que Christopher, qu'on n'a eu aucun. Et c'est aussi... et je crois qu'il y a un moment, vous racontez que vous avez quelques rondeurs, mais que vous en jouez, que ça, c'est pas un complexe.
Oui. Si, c'était un complexe, parce que j'imaginais que toutes les autres femmes étaient minces, sveltes, et qu'elles faisaient un 38.
Ouais.
Donc, moi, j'ai mis aussi de l'humour dans ma présentation pour essayer de le faire passer, ou l'assumer, voilà. Dire les photos, elles sont là, elles sont vraies.
Donc l'humour, oui, je crois que vous avez dit, il vaut mieux être collé à un coussin plutôt qu'à une branche, ça ressemble un peu à ça. Dites-moi Marie, alors finalement, racontez-nous cette belle histoire. Comment vous avez rencontré quelqu'un de sérieux, j'allais dire ?
Eh ben, de sérieux, comme sur les autres rencontres, il n'y a rien qui est prédéterminé. Adopte-un-mec.com, un soir, une conversation avec un monsieur, conversation écrite qui dure un bon moment, des échanges, des points communs qu'on se trouve. Là aussi, beaucoup d'humour pour se parler des choses.
Quel âge il a, lui ?
Il a 48 ans.
Donc plus jeune que vous ?
Oui, de 2 ans. Énorme. Et puis, bah, on a décidé de se voir très vite. Hein. De toute façon, ça a toujours été ma marque de fabrique. Je trouve qu'il vaut mieux voir rapidement quelqu'un et se faire une idée plutôt que traîner en longueur dans les échanges et finalement fantasmer et être déçu.
C'est ça, c'est le risque du fantasme. Plus on attend, plus on se fait une image de l'autre et plus la déception est forte.
Et la déception peut être forte. Mmh. Voilà. Donc, on a pris un verre le lendemain. Le rendez-vous était rapide parce qu'il avait, lui-même un rendez-vous professionnel juste après. Et puis, plein de questions parce qu'il ne correspondait pas au physique que je m'étais imaginé, parce que les photos ne dévoilaient pas tout, parce qu'il n'était pas celui que je cherchais. Mais j'ai lâché prise. Et j'ai une amie qui m'a dit tu verras bien, laisse faire la magie. Et la magie s'est faite.
Et depuis, ça fait combien de temps ?
Ça fait 4 mois.
Ah, 4 mois, superbe. Et Marie, vous conseilleriez à vos amis ES aujourd'hui d'aller sur ces sites ?
Bien sûr, parce que dans le quotidien, si vous asseyez à la table d'un café, que vous repérez un homme à côté, vous avez beau lui faire des regards, vous faire tomber quelque chose, on n'attire pas, en tout cas à Paris. Je trouve que les hommes restent très méfiants, très en recul. Oui. Et souvent, j'ai dit, je suis sûre que je rencontrerai cet homme sur un site de rencontre. On commencerait à parler plus facilement que si on était assis de table séparée dans un café. Quoi.
Je comprends. Je vais demander à René Grezard, qui tient cette rubrique à succès qui s'appelle Tinder Surprise, des récits de rencontres entre personnes qui se rencontrent sur des sites. On a l'impression que Marie, elle s'y prend mieux à 50 ans que les jeunes de 25 ans ou de 20 ans.
Mais Marie, elle a tout compris et félicitations Marie. C'est que en fait, il y a quelque chose de que je disais tout à l'heure, c'est qu'il fallait savoir ce qu'on attend. Mais en fait, la meilleure façon de se comporter, je pense, sur une appli, c'est de pas avoir d'attente trop précise. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, encore une fois, on est dans un supermarché et tout le monde considère qu'il est un peu un client et qu'il est là pour trouver ce qu'il veut. Ouais. Mais les êtres humains ne sont pas des boîtes de conserve.
Ouais,
donc ça n'est pas possible, de commander une Barbie avec des cheveux blonds et les yeux bleus. Enfin, c'est pas ou alors un Ken très musclé. Enfin, en fait, je pense que pour que ça se passe bien, il faut accepter aussi de pas rencontrer exactement ce qu'on attend. Mais ça dit quelque chose sur le désir et sur l'autre aussi, la rencontre, quoi. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas là juste pour satisfaire son ego et ses besoins personnels. On est aussi là pour rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire avoir quelqu'un de différent en face, avec son histoire, avec son bagage.
Et pourquoi Marie s'y prend mieux que les jeunes ? Pourquoi les jeunes gens ? Pourtant, on a l'impression qu'ils y vont tous, les jeunes, et qu'ils sont tous déçus, qu'il y a une sorte de désillusion forte. Quoi.
Je pense qu'il y a déjà un trait de caractère apparemment de Marie qui est d'être assez souple et qui aide, je pense. Après, j'ai pas de chiffres exactement sur la déception des jeunes, mais moi j'entends tout sur les applis. Hein, pour le coup, dans les récits que j'ai, il y a des gens qui sont déçus, des gens qui sont pas déçus. Je pense que c'est aussi une question de tempérament, et je trouve ça aussi dur en fait d'en vouloir aux gens qui sont déçus, dans le sens où c'est normal, on leur a promis qu'ils allaient avoir quelque chose et ils l'ont pas. Et puis c'est très cruel en plus tout ça. Le premier témoignage qu'on entendait de Caroline, il était hyper cruel. C'est encore une fois, on est dans le supermarché. On m'a dit que j'allais avoir une boîte de conserve verte et jaune. Je regarde la photo à côté de la boîte de conserve en vrai, ça ne va pas. Ouais. Enfin, c'est terrible en fait, c'est très très cruel.
Merci infiniment Marie pour votre témoignage incroyable qui va sans doute servir à beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Et pour conclure cette émission, nous allons accueillir Jean-Michel, vous allez l'entendre, lui aussi ça s'est terminé très bien.
Et Phil commente sur Facebook, personnellement après avoir rencontré 3 ou 4 personnes sans résultat, la suivante fut la bonne depuis 2 ans de bonheur.
Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous êtes avec Ève Roger et nous parlons des sites de rencontres. Benjamin attend vos appels et vos messages au 3921, le standard d'Europe 1. Les sites de rencontres en ligne, une aide précieuse pour trouver l'amour. On en parle avec Ève Roger jusqu'à 16h.
Oui, pour conclure cette émission, nous avons avec nous Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Alors quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Jean-Michel ?
Alors j'ai 38 ans et je vous appelle de l'Aveyron.
Alors, je souhaitais terminer cette émission avec vous parce que, dans une forme de happy end, c'est sur Grindr, un site pour homosexuels, que vous avez rencontré votre mari. Alors, racontez-nous cette rencontre.
Alors, c'était il y a 4 ans. On discutait, j'étais connecté à l'application et puis j'ai parlé à un nouveau profil que j'ai vu sur ma ville et que je n'avais jamais vu auparavant.
Ouais.
Et je ne savais pas encore qu'à ce moment-là, ben, ça allait être mon futur mari.
Alors vous avez quand même, j'allais dire, matché?
Oui, ouais, ouais. Je lui ai envoyé un message, mais on n'a pas pu se rencontrer parce que il était en vacances et il repartait le lendemain matin.
Mm-hmm.
Et on a discuté pendant plus d'un mois, comme ça, on s'est échangé nos numéros de téléphone et pendant plus d'un mois, on a discuté tous les jours sans s'arrêter.
Mm-hmm. Et puis après un jour.
Et puis un jour, il a dit, tiens, je vais venir voir mes amis qui sont dans ta ville et puis je passerai te voir à l'occasion.
Ouais.
Donc il est monté dans un train et j'ai été récupéré le soir à la gare. Il était en sueur, le pauvre, parce que la clim était en panne, c'était pas la meilleure.
Le plus glamour.
Il n'était pas sous son meilleur jour, voilà, c'est ça. Et puis j'ai dit, mais viens à la maison, on va boire un verre. Et puis il est venu à la maison, on a bu un verre et il n'est jamais reparti de chez moi.
Et ça fait 4 ans. Et vous vous êtes mariés en juin dernier, c'est ça ?
On s'est mariés en juin dernier à notre date anniversaire de rencontre.
Alors, donc Jean-Michel, indéniablement, sans Grindr, vous n'auriez jamais rencontré cet homme ?
Jamais.
Parce que vous habitez aussi dans une ville qui n'est pas très grande, donc vous connaissiez à peu près tous les plans de votre région.
C'est à peu près ça. J'avais fait le tour et puis déjà moi qui suis de naturel timide et puis trouver des gens qui sont gays, c'est plus compliqué. Donc moi sans application, c'est clair, je ne l'aurais jamais rencontré. Jamais.
Et en même temps, vous dites, je l'ai pas su, c'est normal que ça serait votre futur mari, mais ça veut dire que vous enchaîniez jusque-là des rencontres qui duraient pas longtemps.
C'est ça. Je savais pas trop ce que je cherchais. J'étais connecté tous les jours et puis je prenais ce qu'il y avait à prendre, quoi. Mais
et
un
sur
peu
le
dans
site,
une certaine frénésie, quoi.
Je comprends. Mais alors sur le site, vous n'avez pas fait la différence entre lui et les autres. Ça démarrait de la même façon.
Non, ça démarrait de la même façon. J'y tiens une nouvelle photo dans ma ville. Je vais aller lui parler. Mais tout de suite, dès les premiers échanges de mots, j'ai su qu'il y aurait quelque chose de différent.
Ah, c'est dans l'échange par Internet quand même qu'il y a eu une différence.
Oui, dans l'échange, avec un petit peu plus de retenue, avec un petit peu plus de malice peut-être. J'ai senti qu'il fallait laisser aller les choses et que ça se passerait sûrement bien.
Alors ce qui est étonnant, c'est que vous n'êtes pas tendre avec ces sites de rencontres parce que vous leur reprochez quand même une forme d'addiction. Ça pousse à l'addiction. Racontez-moi
oui,
ça.
Alors, peut-être pas chez tout le monde, mais moi quand j'ai commencé à me connecter, j'étais après connecté très souvent. Et j'avais ce besoin tous les matins en me levant de me connecter et puis une heure après de me reconnecter et de voir si j'avais des messages et de voir si les gens m'avaient répondu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'envie de savoir si on plaît toujours, si on arrive toujours à faire que les gens vous regardent.
À séduire. Et c'est quelque chose, ça doit être terriblement addictif, justement, de savoir qu'il y a peut-être un message, qu'il y a peut-être un like, qu'il y a peut-être un...
Oui, qu'il y a peut-être un like, qu'il y a peut-être mieux ailleurs. Et ça aurait pu mettre ma relation en péril, d'ailleurs.
Pourquoi ?
Parce que même une fois que j'ai rencontré Alexis, j'avais envie de me connecter encore après. Pourquoi ?
Alors que vous saviez que c'était peut-être quelque chose d'important.
Oui. Ah oui. Ouais. Et il a fallu vraiment même que j'en parle avec mon compagnon, avec Alexis, et que ce soit lui qui me dise vraiment d'arrêter de faire ça.
Ça a été dur de vous en passer justement à ce moment-là ?
Oui, ouais, mais parce que c'était plus fort que moi. Je ne l'ai pas fait extrêmement souvent, mais il y a comme un fumeur qui arrête de temps en temps, qui a envie de refumer, ben là c'était un peu la même chose. Bon, je ne l'ai pas fait longtemps, aujourd'hui je ne le fais plus depuis longtemps, mais c'est vrai que ça a été compliqué d'arrêter.
Mmh. Et pour terminer, vous dites aussi qu'il ne faut pas y rester longtemps parce qu'on tombe dans le piège de la rencontre facile. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'une rencontre facile peut être aussi une belle rencontre.
C'est beau pendant le temps de la rencontre, pendant l'heure de rencontre, et dès qu'on est rentré à la maison, on dit tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, je vais voir si je ne peux pas faire une rencontre. Et on rentre dans un cercle où le but de la vie, c'est de faire des rencontres.
Donc vous êtes bien content aujourd'hui d'être débarrassé de cette addiction ?
Très content.
Je comprends.
Mais voilà.
Je vais me tourner une dernière fois vers notre experte René Greuza. Vous vouliez dire quelque chose sur l'addiction ?
Intéressant.
Attendez.
Oui, je voulais dire deux petites choses. Il y a quelque chose de très intéressant sur l'addiction, c'est qu'en fait, c'est Judith Duportail encore qui le montre dans son livre. Les likes, les switches, ça fonctionne comme des petites
poussées d'adrénaline
qu'on a et qu'on reçoit et qui sont galvanisante, galvaudante.
Ouais. Galvanisante, c'est bien.
Ouais, je sais pas comment dire. Voilà, j'avais du mal à retrouver mes mots.
Ouais.
Et autre chose que je voulais dire qui est assez intéressant en fait dans l'histoire de Jean-Michel.
Jean-Michel.
C'est que en fait les sites de rencontre, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la façon la plus simple de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. C'est même la cinquième façon de rencontrer quelqu'un. On rencontre encore quelqu'un sur son lieu de travail, dans une soirée, voilà. Sauf que ça, c'est différent dans le milieu gay, justement, ah. Où c'est pas si simple que ça de rencontrer des partenaires homosexuels selon l'endroit où on habite, mmh. Quand on habite dans un petit village. Voilà. Mmh. Et que donc les applis qu'on critique beaucoup, elles ont cet avantage quand même de pouvoir mettre au moins en relation des gens qui sont sinon isolés.
Et c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Jean-Michel, on vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre mari. Merci de nous avoir fait partager votre expérience. Merci aussi à Caroline, à Christopher, à Marie de nous avoir raconté ces épisodes de leur vie. Et à vous René Grezard pour votre éclairage. Grâce à vous, grâce à nos auditeurs, nous avons compris que les rendez-vous sur les sites de rencontres, c'était pas simple. Trouver l'âme sœur, n'en parlons pas, une épingle dans une botte de foin, mais il y en a, on l'a entendu. Alors pour les autres, on comprend aussi que ces plateformes sont des lieux d'entraînement, des gymnases de l'amour. On s'entraîne à draguer, à peaufiner sa séduction, peut-être même à prendre confiance en soi, évaluer ses points faibles et ses points forts, pour mieux ensuite, peut-être dans la vraie vie, aborder l'autre avec plus de confiance, fort de cette expérience un peu particulière. Savoir ce que l'on veut, savoir qui l'on veut. Et pour tous ceux qui ont souffert, croisé des fous, perdu la tête ou perdu la face, une seule solution, en rire, en se disant qu'on n'est sans doute pas le seul.
Vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux, le groupe de l'émission ou sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1.
Demain, nous nous demanderons comment garder joie et optimisme malgré l'âge qui avance. Alors si vous avez la soixantaine et que vous avez l'impression que les bonnes années sont derrière vous, si vous avez passé la soixantaine en riant, chantant et sifflotant, ou si vous avez longtemps pleuré votre passé et un jour découvert qu'on pouvait vieillir et être heureux, faites-nous signe, appelez-nous au 3921 pour témoigner. Nous attendons vos témoignages. Merci à Benjamin Lévesque pour la préparation pas du tout virtuelle de cette émission. Merci à Boris Paczynski à la réalisation. Et merci à vous, Johanna.
Avec plaisir, Eve. Merci.
Je vous laisse maintenant pour 2 heures de musique en compagnie de la charmante Karima Charny. Bonjour, Karima.
Bonjour, Eve. Bonjour, Johanna. Bonjour à tous.
Alors, il va être question de Johnny cet après-midi dans votre émission.
Exactement. Nous recevons Pierre Billon qui a écrit un livre qui s'appelle Johnny, quelque part un aigle. Pierre Billon a été l'un des producteurs de Johnny Hallyday, ça a été un de ses très proches. Il a également travaillé avec Michel Sardou. Mais si son nom vous dit aussi quelque chose, parce que lui aussi a été artiste avec cette chanson, écoutez.
Je me sens définitivement comme une bombe triste.
Ah oui, d'accord, tout le monde danse.
Ah mais c'est ma passion la bande matrice. Mais vraiment, véritablement, donc j'ai hâte que Pierre Billon vienne nous raconter toutes les anecdotes de production aussi qu'il a autour de Johnny Hallyday et nous expliquer aussi comment il a produit ce titre par exemple.
Eh bien ça va être une chouette émission, je vous dis bonne émission.
Merci.
Donc et puis et moi à demain.